Non, mais des fois, tu lui dis, bah, tu sais, le système de terre, machin, bref, bon, c'est pas grave, mais puis au pire, on.
Si je te jure, cette cloche en faïence, ça fait 17e, je peux pas la laisser passer. C'est des cloches pour les salades.
Bah, ok, regarde, il y a un petit enfant.
Donc, du coup, mettre en place une démarche pour aller collecter les paroles d'habitants et vraiment faire émerger ce que l'on entend à partir de cette matière.
Qui en est le collectif ? Je sais pas, alors on est 6. On travaille depuis un an sur le projet. Donc il y a Bruno, qui est concepteur paysagiste et jardinier. Arthur, maraîcher cueilleur. Thomas, qui est épicier et historien de formation. Il y a aussi Agathe, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est valorhistorienne. Qui fait de la valorisation du patrimoine et qui est historienne de formation. Qui lance des visites guidées à Blois-Vienne. Il y a Julien qui est urbaniste géographe et moi-même qui suis aussi urbaniste géographe.
Anise.
Voilà, Anise. On est tous plus ou moins blésois. Si, pour la grande majorité, on est blésois depuis un certain nombre d'années. Ouais. Il y a deux blésois d'adoption, enfin, deux mois, c'est à côté. Donc on est. Un attachement au territoire qui est important, connaissances différentes les uns des autres en fonction du vécu qu'on a ici depuis plus ou moins longtemps.
Merci.
Personne n'était visé. Hein. Et donc voilà, on s'est retrouvés autour du. Il y a à peu près un an, bah il y a un an, non, avec des personnes qui avaient déjà réfléchi à un projet à développer à Blois-Vienne. Donc on s'est rassemblés un peu tous autour de ça et on a réfléchi, on a monté un projet donc sur le terrain des métairies de Pont-Saint-Michel qui sont les terrains sud de la Vacquerie.
Alors bah, le site il est sur un. Alors d'abord c'est un site que la ville et l'agglo souhaitaient valoriser et c'est un site qui est remarquable puisqu'il est à la limite de la ville. C'est un espace ben Vienne qui était un quartier maraîcher et cette grange ancienne en témoigne. Elle est aussi sur la route ancienne qui menait de la ville vers le sud, hein, vers l'Espagne. Et en fait, voilà, derrière, il y a les ponts Saint-Michel et c'était une des voies d'accès ancienne à la ville. Très ancienne, certainement romaine, mais probablement avant, et puis en tout cas qui est citée pour la première fois les Ponts Saint-Michel au début du XIIIe siècle. Et c'était un peu la même chose avec les ponts Chartrain qui sont un peu plus connus, qu'on voit encore en partie, voilà, qui menaient eux vers Orléans. Voilà. Et donc là, il y avait vraiment un intérêt. On voit que la ville et l'agglo voulaient en faire quelque chose et le redédier au maraîchage. Et les premières réflexions, les premières rencontres, il était évident que d'aller dans ce lieu prenait tout son sens. C'est un lieu aussi qui risque l'inondation et ça aussi, je pense que c'était intéressant de pouvoir l'utiliser. Alors depuis des années, Vienne était un peu... l'urbanisme s'est un peu mité par des constructions nombreuses. Bon, maintenant, le PPRI ne permet plus de construire comme avant. Et l'idée, c'est pas forcément de retourner en arrière, mais comment on peut faire du maraîchage aujourd'hui, peut-être un peu différemment. Et notre projet, il s'inscrit vraiment là-dedans, puisque on ne va pas refaire... ce que l'on voit sur les photos aériennes anciennes ou ce que les anciens ont connu, c'est-à-dire des dizaines et des centaines de parcelles. Là, pour l'instant, il y a une maraîchère, Anne-Sophie Casté, qui a été installée par la ville et l'agglo. Donc elle est sur 3 ou 4 hectares, je crois. Et nous, ce qu'on propose de faire, c'est de faire quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire qu'on serait à la fois dans la production, avec Arthur notamment, mais aussi dans tout ce qui touche à l'éducation populaire et qui concerne le maraîchage. Donc c'est Alors, il y a des termes qui sont très à la mode, mais qui semblent intéressants. C'est l'autonomie alimentaire, c'est l'agriculture urbaine, c'est la résilience. Voilà, c'est là où on veut être, c'est être un acteur, j'allais dire, intermédiaire, finalement, hein, puisque à côté, il y a les prêts d'amont, le dispositif entre la couveuse Maturis-Mer, l'agglo, le lycée horticole, voilà, pour pouvoir installer des maraîchers. Il y a aussi les jardins du cœur. Avant, il y avait les jardins de Cocagne et ils sont toujours en Vienne, mais ils sont déplacés. Il y a aussi le lycée horticole. Et il y a quelques. Enfin, il y a plus qu'un seul professionnel, je crois, M. Papin, qui est lui horticulteur. Et l'idée, c'était de dire est-ce qu'on peut être dans ce mouvement d'éducation populaire entre. Les professionnels et puis les habitants. C'est-à-dire que le maraîchage à Vienne, il a permis de nourrir la ville pendant des siècles. Là, c'est plus forcément possible, mais peut-être qu'on peut donner le goût aux gens et leur montrer ce qu'on peut faire et à proximité de la ville, tout en essayant de produire un peu.
Là, nous, on est en juste périphérie, donc dans une zone justement qui nécessite un travail particulier parce que c'est des zones qui sont abandonnées en fait, où les gens vont plus alors que au final c'est 2 minutes en vélo, 10 minutes à pied, donc effectivement c'est redonner un peu ce goût de redécouverte de son quartier, de re-questionner un peu les moyens de locomotion aussi quoi. C'est, en fait on s'imagine toujours que c'est loin alors qu'au final c'est à notre porte. Et c'est des lieux qui sont très propices. Enfin, je veux dire, on voit actuellement que les terres agricoles qui sont en périphérie de ville, on les construit pour des centres commerciaux, des zones industrielles. Et nous, on vient justement se mettre, on n'est pas exactement sur les mêmes terrains là, mais on vient justement sur ces marges pour dire ces marges, elles sont importantes parce qu'elles participent à notre cadre de vie, à l'aspect paysager des villes aussi. Et que c'est des lieux qui peuvent être productifs, qui sont historiquement productifs et qu'on a abandonnés. Donc nous, on vient là-dedans. Après, effectivement, c'est un point de départ pour nous et on va essayer de questionner justement là, qu'est-ce qu'on peut faire dans la ville, parce que ce lieu-là, il ne fonctionnera pas tout seul. Enfin, il ne pourra pas fonctionner purement tout seul. Donc il va falloir créer d'autres lieux, d'autres moyens d'action pour l'intérieur des villes. Et que ces lieux à l'intérieur des villes fonctionnent aussi en réseau. Quoi.
Le lieu, effectivement, en soi, est intéressant. C'est pour ça qu'on se bat aussi pour l'obtenir, parce qu'il a une position vraiment très, très stratégique. On avait un petit logo, là, on ne peut pas vous le présenter, mais si on récupère... en gros, on est entre la Loire et la forêt de Russie. On est juste derrière l'Alvée, en termes aussi de tout ce qui est voie d'accès. Il y a des choses très très intéressantes entre l'Alvée et la forêt de Russie. C'est le Cosson et quelques lignes bocagères. Finalement, c'est dans la longueur du Val. Et d'un seul coup, à partir de là où on est, c'est vraiment une ramification qui commence à partir des métairies. Donc il y a une position qui est vraiment stratégique parce qu'on est entre le territoire urbain et le territoire rural. Même si on est dans un contexte d'agglomération qui brouille un peu les pistes, mais malgré tout, on a ce contexte-là. On a des voies d'accès nombreuses, tout découle presque ici, en tout cas pour Blois-Vienne. On a vraiment toute cette imbrication des échelles, on a effectivement des acteurs du maraîchage, de l'horticulture qui sont à proximité, on a plein de jardins ouvriers, on a l'histoire de Blois-Vienne, avec des espaces quand même encore assez cossus, des cœurs d'îlots qui sont assez larges, etc. Pas mal d'espaces qui peuvent même porter des petites productions, et quelques hectares qui se trimballent à droite à gauche. Enfin, un hectare d'un seul tenant, il y en a quelques-uns à Blois-Vienne, ça c'est pas inintéressant. Donc la périphérie est intéressante de cet ordre-là, parce que malgré tout, c'est comme un écotone, c'est comme une lisière, quoi. Il y a un moment, tout passe par là. Quoi.
Je pense que dans le collectif, on avait tous un peu la même vision des choses aussi, au départ, sur le fait que maintenant la société est très segmentée, très déterritorialisée. Il y a une perte de vie dans les villes. Maintenant il y a la zone commerciale à l'extérieur, la zone de vie intérieure, tout est très cloisonné. Même dans les activités économiques, on est
qu'une personne qui fait un métier, du coup, bah, en fait, tout devient très compliqué. Et puis, du coup, ça amène pas mal de problèmes. Enfin, nous, on l'a vu en tant que paysagiste, en tant que historien, c'est pareil, ils l'ont vu. En tant qu'urbaniste, pareil, c'est ce problème de perte d'identité des quartiers, de perte de vie. Et donc, nous, on vient s'inscrire là-dedans en essayant de re-questionner un peu le moyen de fonctionner ensemble, quoi. En essayant de recréer un lieu de vie dans un quartier. Et puis, ce lieu de vie, c'est un peu un projet global, quoi. C'est un projet de territoire aussi. C'est-à-dire, on va le projet amener à évoluer, notamment par l'aspect pédagogique et puis éducation populaire. C'est-à-dire que maintenant, c'est un peu décousu, mais c'est vrai que souvent, nous en tant que professionnels, on a fait tous des longues études, on a vu que bah, les professionnels parlaient un langage de professionnels pour des professionnels, et que ça porte pas justement à mieux vivre ensemble. Je veux dire, nous, on va essayer de créer un lieu autour du maraîchage, autour du jardin, pour aussi aborder des sujets de société qui sont importants, puisqu'elle est en pleine mutation. Donc effectivement, l'urbanisme, c'est quoi habiter dans un quartier, comment est-ce qu'on peut agir dessus, comment le comprendre, faire comprendre aux gens que bah, on est acteur de son territoire et que tout le monde peut faire quelque chose. Le sujet de l'alimentation aussi de demain, parce que bah, voilà, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes liés à l'alimentation, dans les moyens de production et puis dans ce qu'on mange concrètement, quoi. Donc effectivement, le circuit court, ça paraît un point de départ pour re-questionner l'alimentation, manger des produits de saison. Donc tout ça, ça forme un tout. Et puis bah, évidemment, l'histoire sur comprendre son quartier, le connaître, c'est aussi accepter son identité et puis rentrer un peu dans la vie du quartier à proprement parler. Donc c'est vraiment un tout.
Chacun on fait une interprétation. Pour moi, c'est la résistance. Enfin, c'est top. Non, c'est oui, c'est donner des armes. Voilà, c'est ça, c'est donner des armes
de compréhension déjà.
Oui.
Pour qu'ils soient autonomes dans leur réflexion. C'est pas orienter des discours. C'est plutôt donner des moyens de compréhension sur la société actuelle pour que les gens puissent se faire leur propre avis après. C'est-à-dire, nous, on n'est pas là pour donner des leçons. On n'est pas là pour dire ah non c'est mal, ça c'est bien. On est là pour dire voilà, ça à peu près notre vision de la société de demain qu'on voit. Maintenant, pourquoi on pense ça, on va l'expliquer. Et puis bah, les gens pourront être à même de dire qu'on se trompe ou inventer leur propre système. Je veux dire, on n'est pas. Nous on a un but d'exemplarité dans le projet. Mais c'est plus dans l'aspect expérimentation.
Oui, puis c'est un lieu qui va se construire hein, oui. Avec les rencontres. Mmh. Donc finalement, nous, on se rend bien compte qu'il y a effectivement plein de choses qu'on ne sait pas faire. Mais c'est peut-être ce qui manque dans cette ville, c'est des lieux en fait qui soient. Alors même si là, il va y avoir un collectif, il va y avoir. L'idée, c'est un lieu ouvert. Un lieu de rencontre, un lieu, voilà, et qui va se construire par les compétences des uns et des autres. Alors, nous, on sera sur place, nous, on va essayer de développer nos activités autour, mais ce qu'on espère bien, c'est que à la fois, grâce à l'existence de ce lieu, on va pouvoir offrir, entre guillemets, un espace ouvert et que les choses vont se cristalliser là-bas, et puis peut-être aussi essaimer, puisque c'est un peu le but du jeu. Et on voit qu'il se passe beaucoup de choses dans cette ville actuellement, hein. On voit le développement de la ressourcerie Les Bonnes Manières, on a les camarades d'étendard, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont en train de le 41, enfin, il y a beaucoup de choses, le Fab Lab, enfin qui sont en train de se faire. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir ces lieux qui puissent permettre aux habitants un peu de voir un peu les choses autrement que dans un centre commercial où on échange contre de l'argent des produits. Là, c'est de montrer qu'on peut faire, qu'on peut faire d'autres choses, qu'on peut, enfin voilà, c'est un peu cette idée-là.
C'est pas un lieu concret pour nous, pour notre activité finalement, c'est, il y a la rencontre déjà d'une activité professionnelle, de convictions personnelles et collectives, qui vont à la rencontre d'un territoire pour arriver à faire en sorte que ce territoire évolue et n'évolue pas, le mot était très bien trouvé, de manière cloisonnée. Institutions, décideurs, acteurs, etc., financeurs, chacun de son côté, quoi. C'est du coup de revenir à des formes, enfin revenir, essayer de voir s'il n'y a pas des décisions partagées, dans des moments partagés.
Utiliser l'intelligence collective, en fait, comme moyen de faire émerger d'autres projets.
Et puis faire émerger l'intelligence collective. Oui.
Et déjà la nôtre, ça serait pas mal.
Sur le site des métairies, il y a un point qui est très important, c'est aussi l'aspect coopératif, comme disait Bruno, c'est effectivement transmettre, mais aussi proposer un système d'organisation. Donc là, on va permettre aux gens aussi d'avoir un moyen via une coopérative de consommation pour acheter des outils en gros, organiser le compostage pour l'ensemble des jardins. Faire venir du fumier en grosse quantité, donc ça va éviter que les gens aillent dans les petites jardineries acheter leur petit sac de fumier de cheval à 50, je sais pas combien ça coûte parce que j'en ai jamais acheté là-bas, mais voilà, donc essayer de proposer une organisation comme ça autour de lieux communs qui va faire que les gens vont se rencontrer parce qu'ils vont devoir fonctionner ensemble, et puis permettre justement d'avoir les bons produits au bon moment, les achats de graines, l'irrigation, tout ça, penser en commun. Donc ce qui va faire aussi que les gens vont plus se rencontrer que dans les jardins ouvriers. Enfin, ils vont avoir un peu l'obligation de se rencontrer parce que le fonctionnement est prévu comme coopératif, quoi. Et donc voilà, on va mettre en place les jardins partagés, les jardins individuels et l'espace de production. Donc là, effectivement, c'est peut-être plus le sujet qui vous intéresse directement sur l'aspect agricole, maraîchage. Donc ça va être proposer que le lieu fonctionne en ultra local, c'est-à-dire que les produits vont pas faire plus de 2 km normalement. Donc ça devrait. Enfin, au départ, on va.
Périmètre, 2 km.
Bah oui, parce que ça va se distribuer en fait en ville, quoi. Donc c'est au départ avec des restaurateurs, et puis au fur et à mesure on va essayer de développer ça pour faire profiter justement la coopérative de consommation de produits frais. Du coup ça va inclure aussi les jardins partagés et les jardins individuels. Donc avec la question, tous les jardins à un moment ils ont des surplus, donc il y en a qui n'ont pas assez, donc on va essayer de trouver un fonctionnement là-dessus aussi. Et comme on disait plus tôt aussi, l'aspect territorial, donc faire rentrer aussi les jardins individuels dans ce système-là, donc sous forme de volontariat évidemment, mais tous les fruitiers qui produisent énormément, souvent les fruits se perdent, alors que en fait on n'en trouve pas en local, et ainsi de suite. En fait, c'est essayer de créer une économie locale grâce à l'ensemble des participants, quoi.
Oui, c'est là de retrouver, finalement, ce qu'on va retrouver, ce qu'on espère, c'est ce maraîchage, mais c'est pas comme avant, c'est un peu le côté palimpseste qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'on gratte un peu les choses et on s'aperçoit quoi ? Qu'on a une ancienne voie, on a une ancienne grange, on a des anciens champs, et puis là, ces circuits de distribution classiques, anciens, et pas si anciens que ça, hein, puisque... Je crois qu'il y avait combien encore de maraîchers dans les années 70 ?
70.
Ouais. Non ? 70,
donc, donc en fait, là maintenant, il n'y en a plus. Donc en peu de temps, en fait.
Ah oui ?
Donc, et sachant que c'est resté quand même plusieurs siècles. Donc là, effectivement, se dire comment... Alors, on ne pourra pas nourrir la ville. Mais par contre, on peut essayer de montrer que c'est possible, pas simplement dans ce lieu-là, mais qu'en tout cas, il peut être intéressant de réinterroger les anciennes pratiques avec les techniques modernes, l'évolution. La permaculture, c'est pas si ancien que ça, puisque c'est de tout temps, on a...
En fait, c'est ancestral.
Oui, c'est ancestral, mais on laboure en France depuis combien de temps? Combien de milliers d'années?
Quelques siècles.
Voilà. Donc en fait, c'est ancestral, mais depuis 2000 ans, on laboure, alors que maintenant, on a des maraîchers qui ne travaillent plus le sol. Et ça, finalement, c'est la progression de la connaissance en horticole qui permet ça. Donc là, finalement, on va se dire, plutôt que de laisser perdre ses fruits dans son arbre, dans son jardin, et d'aller acheter des cerises au supermarché qui sont chères et pas bonnes, est-ce qu'on peut trouver un mode de fonctionnement pour retrouver ces circuits courts, mais vraiment au sens propre du terme, quoi.
Un accent qu'on met sur l'accompagnement, c'était un point qui nous avait semblé, enfin, qui avait émergé aussi dans les discussions avec les différents élus et techniciens ou les différentes structures associatives qui avaient mis en place déjà des jardins partagés et qui s'essoufflent par manque d'accompagnement et de compétences à l'accompagnement. Donc nous, il nous paraît important que forcément dans cette transmission des connaissances, d'outils pratiques, qu'on soit présent sur le terrain régulièrement avec eux pour que les choses avancent. Parce que dans ce retour à la terre qui passe par le jardin et qui n'est pas un effet de mode, hein, il y a à mon avis quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui ont envie, mais qui ne savent pas. Quoi. Le jardin, ça leur fait peur, oulala, mais pff, ça vit, ça meurt, qu'est-ce que je fais, quand, comment. Ça impressionne beaucoup. En vérité, c'est pas si compliqué. Mais il faut cette aide au départ, au démarrage, pour qu'après, au bout de quelques temps, ils puissent évoluer vers d'autres dimensions de jardin, soit parce que plus grand, soit parce que peut-être plus productif, soit peut-être d'autres éléments d'autres vocations. Ça peut être construire des outils, entretenir des haies, les savoirs, devenir restaurateur.
Non, mais ils sont sucrés, hein. C'est les mêmes que la semaine dernière. C'était un peu ferme, mais ils commencent à
être
sucrés.
Je mets là.
C'est fait. C'est bon, ça ? Je vais rajouter juste un peu.
Merci, bonne soirée.
Merci.
Ah, il est beau.
Qu'est-ce qu'il est beau ?
Je l'ai vu, il n'était pas ouvert, moi.
Et maintenant ?
Il est magnifique.
Et grâce à qui ?
Grâce à toi.
T'as vu ?
Bah, je me doute.
Ah, il faut arroser, hein.
Ah non, mais il est beau.
Il y a un autre, hein. Ce côté. Un petit.
Ah, ça met un aussi, ça.
Ouais.
Tout simplement, donc, je suis Anthony Aubert, chef propriétaire du restaurant Assa. Ensuite, moi j'ai des origines paysannes, des grands-parents des deux côtés, paternels et maternels, qui soient de l'agriculture, éleveurs, etc. Et dont un grand-père qui était boucher-charcutier en plus de sa ferme. petite ferme et qui faisait toutes ces charcuteries, tout ce que j'ai mangé. J'ai eu de la chance de manger. Je ne pas connaître le supermarché en fait. J'ai connu le supermarché, je crois, à l'âge de 20 ans. Je connaissais, mais j'ai mis mes pieds dedans vraiment. Je ne m'y plais toujours pas d'ailleurs dans ces choses-là. Parce que j'ai eu la chance de manger que des choses, je dirais pas bio, parce que pour bio pour moi c'est juste une étiquette, mais des choses qui viennent vraiment de la terre, du terroir, qui a pas de, c'était vraiment du direct, quoi, de production pour consommateur. Je ne sais quoi, moi ce qui m'a intéressé c'est le produit en lui-même. Il y a des producteurs qui vont venir, qui vont me dire oui, je travaille pour telle maison, des grandes maisons, etc. Ça ne va pas m'intéresser. Moi, c'est le produit en lui-même. S'il n'a pas de goût, je ne vais pas le prendre. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est avoir du goût, je m'en fous de la forme. C'est le goût avant tout, la texture du produit.
Et qu'est-ce qui vous lie du coup à ce collectif des métairies? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et pourquoi vous vous inscrivez dans leur démarche? Ce choix.
Bon, j'ai connu cette démarche par rapport à Thomas Grappi, parce que je prends déjà des légumes avec lui, parce que moi j'ai pas le temps forcément déjà d'aller voir tous les maraîchers. C'est, faut choisir, c'est soit on se promène, soit on est dans la cuisine. Donc déjà pour moi c'est un grand avantage qu'il sélectionne des bons produits. Et ensuite, il m'a parlé de ce projet et où je suis pour, c'est qu'il y a des choses que moi, je souhaiterais avoir, que je n'arrive pas à avoir par certains maraîchers. Et par exemple, pour un maraîcher, si je lui dis que je veux des fleurs de petits pois, il va s'arracher les cheveux. Et moi, je veux des fleurs de petits pois. Ça va être des petits détails. Je veux des carottes qui font 3 cm, mais on les mange crues, on n'a même pas besoin de les râper. On mange la carotte, il n'y a pas besoin de l'éplucher. Ben voilà, c'est des petits détails que le maraîcher il va dire, non, moi je vends poids. Donc c'est des détails, mais une sensibilité différente sur le légume. La fleur de petit pois, pourquoi? Mais il y a avoir ce goût de pois, de petit pois, mais en même temps un petit côté amertume, de fraîcheur. Mais qu'il y aura une texture différente que le petit pois, mais on va avoir la saveur du petit pois. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc après je peux faire toute une liste, mais c'est pas le but, quoi. Mais voilà le pourquoi et le comment.
Et du fait que ça soit une agriculture locale aussi, ça a de l'importance pour vous? Enfin, le fait qu'il y ait très peu de distance au final, enfin, on s'inscrit dans le bois,
ouais.
T'as pas besoin de faire...
Mais justement, ouais, il y a une importance pour moi aussi, ouais. Alors, déjà c'est locaux, déjà moi je vais dans l'ensemble, déjà dans ma cuisine je travaille majoritairement local, enfin local, les alentours, une vingtaine de kilomètres, que ce soit en viande, poisson boire et légumes. Mais moi, l'avantage, c'est que je peux suivre plus facilement parce qu'il y a des. Voilà, les fèves, je parle des fèves parce que c'est la saison. Hein, les fèves, il y a plusieurs maraîchers qui vont les cueillir différemment, une maturation différente. Et moi, j'ai une maturation précise, et que ce soit à Blois, moi, je peux m'y rendre plus facilement et avoir la maturation vraiment que je souhaite. Quoi. Et que ce soit fèves ou autre, hein, mais je parle des fèves parce qu'en ce moment...
Donc vous vous déplacez pour voir le légume et...
Oui, moi, j'ai un autre producteur moi, qui est à Fresnes, qui est à 20 minutes d'ici. Je vais le voir régulièrement pour lui montrer exactement ce que je veux, la maturation que je veux. Pour les tomates, c'est exactement pareil. Moi, je ne veux pas une tomate qui mûrit dans une chambre froide. Je veux la maturation maximum. À la limite qu'elle va tomber pour avoir un maximum de sucre et ça surprend les gens quand j'ai cuisiné la tomate vraiment naturelle, je rajoute rien, pas d'huile, pas de sel, chose comme ça, j'ai juste la cuire légèrement et quand les gens ils la goûtent ils me disent mais c'est gorgé de sucre, mais j'ai pas mis de sucre, c'est pour montrer que voilà, un légume peut être très bon en soi, mais il faut juste prendre la bonne maturation et c'est ça qui va m'intéresser dans le projet.
C'est une agriculture sur mesure. Ça.
C'est un peu ça. Mais nous, l'artisanat, on doit s'adapter aux produits. Je pense que le maraîchage, voilà, c'est même si c'est le même légume, mais tous les jours c'est différent par rapport à la chaleur, par rapport à l'humidité, s'il y a beaucoup de pluie, enfin peu importe. Donc le légume, il suit cette variante. Et ma cuisine, elle doit suivre aussi cette chose. Et je veux absolument, c'est un combat de travailler vraiment en direct pour avoir vraiment le produit que je souhaite, que je désire. et les saveurs que j'ai envie, les maturations que je veux. Et comprendre ça au maraîcher, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, donc au début, je me battais tout seul un petit peu contre un mur. Et puis petit à petit, ça s'ouvre, on comprend. Et puis il y a des gens qui sont des maraîchers qui sont très curieux aussi et qui demandent à apprendre. Et eux, ils m'apprennent aussi, hein, ça va dans les deux sens. Et puis voilà, on avance. Et puis j'ai rencontré Thomas. Et puis voilà. Mais au début, c'est pas évident. Quand on veut avoir cette démarche et qu'on connaît pas le lieu et que les gens nous regardent avec des yeux comme ça. Moi, je sais que la fraise, par exemple, en ce moment, c'est la fraise. Je travaille rouge, ce qui est normal, mais je travaille aussi des fraises vertes. Quand je dis je veux des fraises vertes, on me regarde avec des yeux comme ça, mais il est fou, quoi. Mais c'est moi, les fraises vertes, par contre, je vais cueillir moi-même. Parce que il y a une maturation spéciale aussi pour la verte. On la mange pas comme ça, verte, parce que sinon, c'est dégueulasse. Mais il y a une texture intéressante. Et voilà, il y a plein de petites choses comme ça, où qu'au début, quand je demandais des choses, ça choque. Il y a plein de choses encore à voir, à faire et à développer. Et pour moi, c'est un territoire qui est très riche, mais qui n'est pas encore bien exploité. Et je pense qu'il y a encore quelque chose à faire. Et moi, tout seul, je ne peux rien faire. Mais je pense que c'est tous ensemble. Et ce qu'ils font là-bas, justement, c'est une chose très, très bien. Même si je ne participe pas à grand-chose, hein, pour être franc. Mais voilà, c'est... C'est des choses qui sont. Il y a plein de choses qui sont exploitées et qui, je pense, derrière, à communiquer sur certaines choses.
C'est de l'éducation, mais qui n'est pas que descendante ou montante. En fait, c'est toujours donner quelque chose, mais savoir recevoir aussi. Pour moi, c'est ce qui définit l'éducation populaire, c'est que. C'est le flux, il est dans les deux sens. C'est que tu peux éduquer un enfant de 6 ans, mais tu peux recevoir aussi un savoir, une éducation, une compétence d'un enfant de 6 ans. Et ça marche, en fait, c'est ça l'éducation populaire, ça veut dire que c'est par tous, pour tous. Donc c'est ça que moi je trouvais intéressant d'avoir un statut juridique qui te permette de faire et de la facturation et de gagner aussi ta vie, mais aussi qui s'ancre profondément sur une éthique et des valeurs. Parce que tu peux faire tous les métiers du monde, tu ne retrouves pas partout, dans n'importe quel salariat, dans n'importe quelle manière de travailler. Tu ne le fais pas toujours. Donc là, voilà, tu as la chance de pouvoir faire une activité qui t'intéresse, qui te plaît, de pouvoir en vivre, tout en étant en plus militant, avec des valeurs, voilà, d'être congruent aussi, de mettre tes idées en accord avec tes valeurs, tout ça. Donc ça, pour moi, je me trouvais que c'était intéressant. Et ça permettait aussi de venir questionner et ton individualité et ton métier, ta passion, ce que tu as envie de faire. Et aussi, moi, comme le collectif, voilà, qu'on a essayé de mettre en place, cette association L'Étendard, de questionner aussi ça en disant, trouver sa place, tout ça, ça, je pense que c'est une bonne école de la vie, j'allais dire, en fait. D'ailleurs, Emmanuel Dutin, il avait dit un truc qui m'a marqué, moi, je trouve qu'il définit bien l'aspect collectif, c'est ensemble, on va vite. Non, tout seul, on va vite, ensemble, on va loin.